Cela fait 30 ans cette année que dans la nuit du 10 au 11 mai 1991, le père Jean-Luc Cab, alors plus jeune prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes, âgé de 32 ans, est tué de 4 coups de couteau par un jeune voleur de voiture à qui il ne dira que « partez, partez ». Le père Jean-Luc Cab a donné sa vie au Seigneur en choisissant le sacerdoce et sa mort survint alors qu'il veut faire respecter le commandement de Dieu « tu ne voleras pas ». Fidèle à sa foi, sa vie et sa mort ont donc une valeur de témoignage pour nous. Pour nous parler du père Jean-Luc Cab, je suis en compagnie de son frère et sa sœur. Père André Cab, bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Gadoulet, bonjour.
Bonjour.
Alors père André Cab, vous êtes prêtre exorciste dans le diocèse. Vous êtes actuellement aumônier à la maison Marie-Saint-Fray de Tarbes. Elisabeth Gadoulet, vous êtes magistrat au tribunal de Tarbes et vous êtes tous les deux le frère et la sœur du père Jean-Luc Cab. Jean-Luc Cab était donc votre petit frère à vous deux. Pour nous apprendre à mieux connaître qui était Jean-Luc Cab, parlez-nous un petit peu de ce frère que vous avez eu la chance d'avoir, père André.
Oui, alors pour reprendre un peu ce que vous disiez, la façon dont il est mort était évidemment inattendue et en même temps elle illustre un chemin. Bon, il s'est arrêté devant ces deux jeunes qui en pleine nuit, c'était l'heure de minuit ensuite, on sait l'heure parce qu'on a appelé les pompiers qui ont noté cela sur leur carnet. Il aurait pu les dépasser et aller appeler la police, hein, mais ce n'était pas son genre. Quelques nuits auparavant, il revenait de Lourdes, où il avait été aidé à confesser tout un groupe de passage, et des amis m'ont dit « Mais tu sais, on a vu ton frère sur le bord de la route en pleine nuit, au retour. Il avait vu deux voitures arrêtées sur le bord de la route, et il était allé les voir s'ils avaient besoin de quelque chose, alors qu'ils se disaient eux-mêmes au revoir parce qu'une voiture partait vers l'aéroport. Il avait besoin du contact direct, quoi. Il ne passait pas par des intermédiaires. Et donc, il a vu ces deux jeunes pousser. D'un côté, je crois qu'il a voulu en effet faire respecter la parole de Dieu. Tu ne voleras pas. Mais je pense qu'il a surtout pensé à faire que ces jeunes ne continuent pas à s'enfermer dans une impasse. Et je sais que j'ai été appelé à témoigner à son procès, cité par la défense du jeune. Et puisque moi je n'étais pas là évidemment quand il est mort, c'est le président du tribunal qui a rappelé ces deux mots, partez, partez. Quoi. Et il les comprenait comme une invitation à ouvrir un chemin, quoi, et non pas simplement « allez-vous-en ». Mais je crois que Jean-Luc a essayé de leur parler. Et ces jeunes n'avaient pas la parole. Ils venaient d'un milieu, d'une éducation où malheureusement, ils n'avaient pas pu grandir, devenir eux-mêmes. Malheureusement, ils avaient un couteau avec une lame de 11 cm. C'était leur seule manière de s'exprimer. Je crois que le petit frère, en effet, que nous avons connu, a toujours eu, hein, cette droiture de cœur, cette rapidité d'action et de parole pour servir. Et je pense que ce geste de sa mort révèle vraiment ce qu'il était en profondeur. Il était le petit frère, donc il est venu 9 ans après moi, 6 ans après ma sœur. Il a toujours été pour nous, je crois, vraiment comme une lumière. Hein. Parce qu'il était le petit frère, bien sûr, mais parce qu'aussi, je crois, il savait nous ouvrir un chemin.
Il est né au moment de Noël, c'est ça, en 1959.
Oui, il est né le 27 décembre, donc deux jours après Noël. Et effectivement, c'était... pour reprendre ce que disait mon frère à l'instant, c'était vraiment un enfant lumineux. Tout petit, il était extrêmement tendre. Maman, quand il est parti, me disait « Mais c'est vrai que c'est auprès de lui que j'ai eu le plus de tendresse. » Et c'est vrai que même pour nous, je vois pour nos enfants, mon mari et moi, pour nos enfants, de lui cette image de la joie, de la tendresse. Et pour dire d'ailleurs, moi, quand il est mort, après, quand je suis retournée, nous étions à Montpellier à l'époque, et quand je suis retournée à Montpellier, je n'avais dans la tête que des chansons. Je l'avais vu pour la dernière fois au pied de l'autel de l'église Sainte-Thérèse à Montpellier pour la première communion de ma fille aînée. Et il chantait à tue-tête au pied de l'autel. Et j'avais dans la tête toutes les chansons hein, qu'il chantait sans arrêt, notamment « Je suis le dieu des grands espaces »,« Tu es le dieu des grands espaces », pardon, qu'il chantait, d'ailleurs, je crois, à tue-tête, en revenant cette nuit-là d'une réunion à Lourdes, d'après ce que m'avait dit maman. Il était positif. Hein. Il voyait le bien chez les autres. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'avait pas peur d'aller vers les autres, parce qu'il avait confiance, pensait qu'il y avait du bien en chacun, et c'est ce bien qu'il voulait faire ressortir chez les gens qu'il rencontrait.
Alors un petit garçon lumineux, joyeux, qui n'avait pas peur de témoigner de sa foi. Il y a eu un mouvement important dans sa jeunesse, il s'agit du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes.
Oui, ce mouvement existe toujours, hein. Il est peut-être dans notre diocèse, est-il un peu moins vivant qu'à l'époque, mais il a formé beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est l'ancienne croisade eucharistique qui a changé de nom au temps de Jean XXIII. Il est devenu mouvement eucharistique des jeunes avec un certain nombre de branches, les feux nouveaux pour les tout-petits, les JTC, jeunes témoins du Christ, pour les un peu plus grands, les témoins aînés. Voilà. Ce mouvement était inspiré de méthodes jésuites, accompagné par des jésuites. Et moi, Jean-Luc a grandi là-dedans. Et c'est certainement ce qui a accompagné cette personnalité déjà lumineuse et généreuse, mais qui a structuré, que vous venez d'évoquer, le fait qu'il allait vers les autres, était là-dedans. Il y avait on leur donnait des petites devises pour des campagnes d'années. Le TAM, le toi avant moi. Hein. Et il avait un petit carnet, d'où j'ai tiré pour le livre Souvenir que j'ai écrit ensuite, des réflexions depuis tout petit, depuis l'âge de 10 ans. On les apprenait à écrire plus souvent possible le soir, un petit peu ce qui, dans la journée, avait correspondu vraiment à cette devise ou bien les difficultés qu'ils avaient éprouvées. Et je crois que c'est ça qu'il a charpenté véritablement, hein, jusqu'à ce que, l'âge de 15 ans, il fasse ce qu'on appelait un choix apostolique. Et il l'a repris quand il a été ordonné diacre ensuite. Donc sa vie n'était pas comme téléguidée, hein, mais elle était vraiment accompagnée. Et ça a été une ligne droite. J'ai eu peur à un moment donné qu'il faisait tellement de choses que ça finisse par craquer. Mais non, il a su toujours trouver l'équilibre intérieur pour tenir. Hein. Ce choix apostolique l'a sans doute beaucoup marqué parce qu'il l'a fait vraiment, non pas simplement comme un acte qu'il aurait décidé lui-même, mais comme une réponse qu'il donnait. C'était vraiment un signe d'alliance avec le Seigneur. Et commence en disant qu'il a d'abord été choisi et qu'il veut d'abord exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait pour lui. Et il rappelle ce petit fait que maman lui avait dit qu'il avait failli mourir quand il est né parce qu'il était enveloppé par le cordon ombilical et qu'on l'avait sauvé, mais qu'en même temps on avait sauvé la maman parce que pendant qu'on s'occupait de lui, la maman, on perdait son sang. Et on s'en est rendu compte en cours de route, heureusement on a sauvé tous les deux. Et c'est ça qu'il veut rappeler au début de son choix apostolique. Et il marque ainsi le chemin du Seigneur dans sa vie. Donc c'est vraiment dans un dialogue, un choix, une décision, une résolution, c'est toujours difficile. Difficile à tenir. Mais un dialogue, on sait qu'on est avec quelqu'un, et je crois qu'il le savait. Le fait même de choisir d'être prêtre n'était pas pour lui écrit d'avance, il y avait déjà un prêtre dans la famille, mais ça a été une réponse aux appels qu'il a entendus.
Alors justement, cet appel à devenir prêtre, il n'est pas venu tout de suite, enfin ça n'a pas été une évidence tout de suite. Il a d'abord fait des études de commerce et puis il est parti travailler au Crédit Agricole.
Oui, il a fait l'École supérieure de commerce de Toulouse et en même temps il a fait une licence en droit et il a eu immédiatement, il a fait un stage à Montauban au Crédit Agricole et il a été immédiatement embauché. Et d'ailleurs, maman m'avait rapporté, parce que ce n'est pas lui qui me l'a dit, que lorsqu'il a annoncé qu'il allait quitter le Crédit Agricole, le directeur lui a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez la direction d'une caisse ? Il n'y a pas de problème, on vous la donne, vous restez. » Parce qu'il avait mis en place tout le système informatique de la caisse en question. Et d'ailleurs, à ses obsèques, était présent un grand nombre d'employés du Crédit Agricole, alors qu'il avait quand même quitté le Crédit Agricole en 1984. Donc en 1981, 11, il y avait encore un grand nombre. Et aujourd'hui encore, on a des gens qui l'ont connu au Crédit Agricole, qui correspondent et qui ont demandé des nouvelles de maman pendant tout le temps jusqu'à son décès, et qui encore demandent si peuvent joindre mon frère, plutôt que moi d'ailleurs, qui peut leur apporter plus que moi, mais ils sont toujours présents et ils, effectivement, ils pensent toujours à lui. Hein, il a marqué beaucoup de monde dans son passage, partout où il est passé en réalité.
Il décide de rentrer au séminaire donc, en 1983. Une date importante aussi, le 15 août 1983, le pape Jean-Paul II vient à Lourdes et le Jean-Luc Cab, à l'époque, a un échange avec lui. Il peut se confesser à lui et il reçoit la communion des mains de Jean-Paul II. Et une phrase est dite, il faut laisser le Christ guider nos vies.
En fait, Jean-Luc s'était déjà beaucoup, beaucoup occupé, donc il s'occupait de jeunes, et il avait grandi dans le Mège, il avait laissé évidemment quand il est parti à Montauban, mais et il n'a pas repris le Mège, mais il s'est toujours senti appelé à être responsable d'attirer des jeunes avec lui. Quoi. Il dit, il ne suffit pas de recevoir le soleil, il faut encore le communiquer. Donc il avait lancé aussi à Tarbes l'aumônerie du technique. Et il a organisé des rassemblements, des camps, vraiment très, très actifs. Et il y a eu un grand moment avant, Jean-Paul II aurait dû venir à Lourdes 2 ans auparavant pour le congrès eucharistique international. Et ce congrès eucharistique a eu lieu sans lui, et il a simplement envoyé un message télévisé. Et avec le cardinal Gantin, qui était son légat, les jeunes notamment ont organisé de grands camps. Et lui, Jean-Luc, a coordonné les camps d'ados. Il y avait toute une série de camps d'adolescents qui étaient autour de Lourdes, une bonne dizaine de camps, de 2000 jeunes. Qui étaient 2000 jeunes ados, les plus grands étaient au camp des jeunes à Lourdes. Donc il était, c'est après ce congrès eucharistique qu'il a voulu réunir un groupe de recherche à l'abbaye de Tournaille avec le père abbé de l'époque qui l'aidait beaucoup pour savoir quel chemin pouvait s'ouvrir à ces jeunes et à lui après ce grand moment du congrès eucharistique. Donc tout naturellement, quand il y a eu un grand rassemblement de jeunes plus court, et puisque le congrès a duré toute une semaine, le pape est venu les 14 et 15 août 83, mais on a bien sûr voulu qu'il y ait des jeunes pour le recevoir, et ça n'a pas été très difficile à les réunir. D'ailleurs, lui était aussi dans l'organisation. Il allait participer à l'organisation de notre participation aux Journées mondiales de la jeunesse plus tard. Donc, naturellement, il a fallu désigner quelques jeunes et quelques adultes pour rencontrer le Saint-Père. Et il a fait partie du lot. Et il a retenu cette phrase, oui, il faut laisser le Christ guider votre vie. C'était bien dans sa ligne, comme je le soulignais à propos du choix apostolique. Il voulait savoir ce que le Christ voulait. Cette année 83, juste auparavant, au moment de l'Ascension, il avait vraiment entendu l'appel à être prêtre. Il était engagé dans l'Église, beaucoup plus que moi. Bon, je faisais ce que je pouvais, j'ai toujours senti que je n'avais pas cet élan qui était le sien. C'était très curieux. Quoi. Il travaillait donc au Crédit Agricole. Il raconte que pour la première fois depuis longtemps, il était resté se reposer ce matin-là. Je crois qu'il était encore au lit à 9h. Pour lui, c'était vraiment exceptionnel. Et là, le téléphone a sonné. Et c'était Monseigneur Donze, l'évêque de l'époque, qui lui demandait, il ne s'attendait vraiment pas du tout à ça, s'il accepterait d'être responsable du journal de la grotte de l'époque, qui plus tard allait devenir Lourdes Magazine. Simplement, ce qu'il a compris, c'est que le Seigneur l'appelait. Voilà, donc, il n'a pas du tout été responsable du journal, mais il a dit je réponds oui au Seigneur. C'est ça qui a déclenché. Et quand il a rencontré le pape, il venait de prendre sa décision, quoi. Il n'était pas encore au séminaire, donc ça a été pour lui vraiment comme une espèce de confirmation. Il y a eu une autre rencontre avec le pape, alors à Castel Gandolfo, l'été avant sa mort, en 90, il avait organisé un pèlerinage à Assise et Rome de 250 jeunes de la région. Et ils avaient proposé de faire quelque chose pour le pape, mais ils n'avaient reçu aucune réponse. Et c'est juste que quelques jours auparavant, ils n'étaient pas encore à Rome, je crois, que le secrétaire du pape les avait appelés pour leur dire qu'ils avaient rendez-vous 3 jours après, le soir, dans la cour de Castel Gandolfo pour monter une soirée pour le pape. Donc il a fallu qu'il s'organise. Et ça s'est évidemment très bien passé. On a de très belles images, évidemment, de l'accueil du Saint-Père qui a passé avec eux toute la soirée. Voilà. Et c'était quelques mois avant sa mort. Mais certainement, cette figure de Jean-Paul II, d'un pape décidé, volontaire, qui n'avait pas peur, correspondait à ce qu'était le Seigneur pour lui.
Que 1984, Jean-Luc rentre au séminaire. Il est ordonné diacre le 5 juin 1988.
Le 5 juin 1988, c'était la fête de Dieu sans doute, tout au long de cette année-là, qui était une année mariale, on l'a peut-être un peu oublié, mais du 25 mars 1987 à la Pentecôte 1988, le pape Jean-Paul II avait voulu une année mariale pour fêter symboliquement le bimillénaire de la naissance de Marie. On avait fait avec les jeunes dans la nuit à l'époque, du côté de Canthouse et Garaison, on avait fait toute une marche de nuit, il y avait une icône de l'année mariale et ce sont tous ces jeunes et cette icône qui ont été présentes à l'ordination de Jean-Luc. Pour lui, le diaconat était vraiment l'âme de son sacerdoce, on peut dire. Il était fait pour servir. C'était le moment où sa vie était vraiment offerte, totalement donnée. Donc ensuite, oui, le 5 juin pour la famille est aussi une date importante puisqu'un petit neveu, donc notre enfant de ma sœur, est né le 5 juin, deux ans après.
Une phrase importante qui a tout son sens, le grain qui meurt porte du fruit. Alors c'est une phrase de la Bible, hein, mais qui a tout son sens aujourd'hui parce qu'elle a été marquée sur des petites images de l'ordination diaconale de Jean-Luc.
En fait, ça résume là aussi un petit peu tout son chemin. Donc j'ai eu la chance quand il est mort. Je me suis demandé, évidemment, moi je l'ai appris, j'étais parti par le train de nuit pour une rencontre qu'on devait avoir d'abord en Bourgogne, puis ensuite ailleurs, avec des jeunes couples, enfin des gens que je connaissais par Lourdes. En arrivant au train de nuit à la gare d'Austerlitz, que j'ai vu deux sœurs de l'Assomption, puisque c'était des sœurs de l'Assomption qui étaient avec lui quand il est mort. Elles préparaient la journée mondiale des jeunes à Chestorova pour toute la région. Donc elles avaient téléphoné à leur sœur à Paris pour qu'elle vienne me prévenir et je l'ai appris au saut du train. Je viens toujours bien sûr de cette unique phrase, Jean-Luc est mort. Il y a eu une bagarre hier soir à Tarbes, Jean-Luc était avec Anne-Pierre, Jean-Luc est mort. Évidemment le monde bascule à ce moment-là et en même temps, avant même que je sache quoi que ce soit des circonstances de cette mort, hein, j'étais encore à Paris, les phrases qui sont montées dans mon cœur, c'était celle de première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, quand il dit « Je vous ai transmis ce que j'ai d'abord reçu, le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et dit « Voilà, c'est mon corps livré pour vous ». Puis il fit passer la coupe de vin en disant « Voilà, c'est mon sang versé pour vous hein ». J'ai interprété vraiment cette mort comme une eucharistie, comme le don total. Et je me demandais, mais lui, est-ce qu'il a pensé à quelque chose? Est-ce qu'il pourrait trouver des signes de ce que cette mort pouvait être pour lui? Et j'ai eu cette grâce, en effet, de trouver dans le casier de sa chambre, à la paroisse Sainte-Thérèse, où il a passé les 6 derniers mois de sa vie, de trouver les derniers carnets qu'il avait écrits. Hein. Donc, il était accompagné à Tournai par le Père Marie et c'était avec ce Père qu'il relisait son existence. Son existence était vraiment une existence donnée. Et j'ai eu la joie de retrouver ensuite à la maison, au grenier, les petits carnets qui remontaient jusqu'à l'âge de 10 ans, donc qui avaient accompagné toute son évolution avec le mouvement eucharistique des jeunes. Et cette l'Eucharistie, le grain qui meurt porte du fruit, la vie livrée, la vie donnée, c'était vraiment l'âme de sa vie. Il a pu dire, alors qu'il était déjà au séminaire, je crois que c'était en 86, pour une retraite qu'il faisait à l'abbaye de Belloc, il a dit qu'il avait acheté une petite croix qui avait remplacé sa gourmette. Il a dit « J'ai échangé ma gourmette où était marqué mon nom, Jean-Luc, et j'ai pris à la place cette petite croix où sont fixés les symboles de l'Eucharistie. » le pain et la coupe. Il dit, voilà quelle doit être mon identité désormais, je dois être un homme eucharistie. C'est ce que dit saint Paul, c'est ce que dit le Nouveau Testament, c'est la vocation des chrétiens. Il l'avait, je crois, totalement intégré. Et à plusieurs reprises, il évoque même, parce qu'il avait un tempérament donc droit, quelquefois un peu vif, il pouvait susciter des incompréhensions et même une certaine hostilité. Il peut dire, je n'ai pas peur des coups de couteau dans le dos. Et il avait pu avoir l'occasion de dire que s'il fallait, il dit que ça sera peut-être le sort des chrétiens aujourd'hui. Je crois qu'il faut que nous soyons prêts à être des martyrs. Quand il a été ordonné prêtre, c'était une coïncidence, mais qu'il a voulu, qu'il a ratifié. C'était le dimanche des vocations, le dimanche du bon pasteur. C'était un 16 avril, qui est en même temps donc l'anniversaire de la mort de Bernadette. C'était le lendemain de la mort d'un vieux prêtre qu'on avait connu ici, dans le diocèse. Et il en a fait vraiment une offrande. Donc ce n'était pas du tout doloriste, il n'était pas du tout pleurnicheur. Au contraire, il était quelquefois même dur avec certains jeunes, à qui il disait qu'il ne fallait pas s'enfermer dans ses souffrances, dans son malheur, dans ses déceptions, dans ses échecs, qu'il fallait toujours rebondir. Je pense que lui-même ne voulait pas s'enfermer dans les difficultés qu'il rencontrait et qu'il voulait avancer droit, en sachant que lui, taillé comme du cristal, pouvait être brisé.
Alors moi, j'ai relevé quelques phrases de votre livre Maria et Jean-Luc qui ont été dites le jour de ses obsèques. Le père curé qui l'a connu 6 mois au service de la paroisse Sainte-Thérèse reconnaît cet homme au jugement saint, au caractère enjoué, aux décisions courageuses. Quand il est arrivé, est entré avec lui une bouffée d'air frais. À nos âges, nous avons un peu peur de nous enrhumer. Mais tu avais une qualité assez peu commune chez les jeunes, l'humilité. Tu n'avais pas la grosse tête et tout doucement, tu as transformé l'atmosphère de la paroisse.
Pour moi, c'est sûr que tu es un garçon simple. Il est auprès de nous, on s'était un petit peu éloigné quand même, puisque on avait 6 ans d'écart. Donc moi, je suis partie, il était en 5e, je pense, quand je suis partie à Toulouse. Ensuite, je ne suis jamais revenue à Tarbes, mais il n'empêche qu'on a toujours eu des relations, vraiment, il y avait... D'ailleurs, il était extrêmement délicat avec nous. Moi, il a attendu pour m'annoncer qu'il rentrait au séminaire, que j'ai accouché de mes jumeaux. C'est pour dire comme il était vraiment délicat, parce qu'il a dit « je ne voulais pas provoquer ton accouchement prématuré avec un pareil choc ». Il savait que pour nous, c'était, pour mon mari notamment, vraiment quelque chose d'extrêmement surprenant. On était un petit peu des suiveurs, enfin moi en tout cas. Et c'est vrai que son attitude tout au long de sa jeunesse, avec nous, avec mes enfants, il était très heureux d'être avec nos enfants. Nos enfants l'aimaient beaucoup, et d'ailleurs l'un des derniers, le quatrième, était particulièrement choqué par son décès et il le réclamait sans arrêt, alors que pourtant il n'avait jamais vécu avec lui. Mais il a marqué profondément tous ceux qu'il a rencontrés, et des plus proches aux plus lointains, et notamment nous, donc sa famille proche.
Alors il y a une personne qu'on n'a pas évoquée, il s'agit de votre maman. Votre maman a eu une réaction bien particulière après le décès de votre frère. J'aimerais bien que vous nous partagiez un petit peu quelle a été sa réaction.
Moi, je vais le dire de façon terrienne, de façon terre à terre. C'est maman qui nous a appelés en pleine nuit, à 5h du matin, donc dans la nuit du 10 au 11. C'est mon mari qui a décroché. Moi, j'étais en train de donner la tétée à mon 5e petit garçon. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave parce que je n'entendais plus aucune réaction de mon mari. Donc, je me suis approchée du téléphone. Mon mari m'a simplement dit « Jean-Luc est mort » et m'a passé le téléphone. Je m'attendais à trouver maman effondrée. Et moi, je l'étais. Mais elle, tout de suite, m'a dit « Mais tu sais, il est heureux ». Et donc, nous sommes arrivés à Tarbes aussitôt après. Et moi, ce que j'ai constaté... Maman était, comme l'était Jean-Luc, de façon habituelle, c'est-à-dire lumineuse. Elle a ouvert les bras, elle nous a pris chacun dans les bras, en nous disant « Il est auprès de Jésus, soyez heureux ». Et immédiatement, elle nous a dit « De toute façon, celui qui a fait cela, il faut lui pardonner, il faut que vous l'acceptiez ». Et moi, je dois dire que j'avais quand même un peu de mal. Hein, je n'étais pas dans cette optique, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'ai une optique quand même plus accrochée à la terre. Et j'avais du mal à admettre qu'on pouvait même prononcer le mot pardon alors qu'on venait de perdre quelqu'un qui nous était aussi cher. Voilà. Et tout de suite après, elle a effectivement continué à accueillir au lieu de se refermer sur elle. Eh bien, elle a accueilli, elle a expliqué et elle nous a aidés à comprendre que cette mort était effectivement une mort donnée.
Oui, c'est vrai que cette petite maman a été un témoin très fort. Je crois que Jean-Luc lui devait beaucoup, et réciproquement. Je crois que nos parents, donc il était le petit dernier, il est resté avec eux. Et c'est avec elle qu'il faisait beaucoup de mèche. Et papa, qui avait été évidemment choqué d'avoir un deuxième fils qui devenait prêtre, mais l'a accepté. Papa, c'est à sa manière, un Joseph. Il ne disait pas grand-chose, mais il faisait, il accompagnait, il aidait. Et je rappelais tout à l'heure dans notre petite rencontre avant l'émission qu'il l'aidait, comme il l'avait aidé pour les rassemblements de Lourdes, il l'aidait à son presbytère de Sainte-Thérèse. Il avait préparé des géraniums qu'il voulait lui porter et les apporter au cimetière. Donc, mais jamais, jamais, il n'a laissé échapper une parole de colère, d'incompréhension. Donc, pour nous, ça a été vraiment très, très fort, évidemment. Hein. Mais je crois, bien sûr, qu'ils ont quand même été brisés intérieurement et qu'ils n'ont plus été les mêmes ensuite. Hein. Non pas qu'ils se soient laissés aller, pas du tout, hein, mais ils étaient capables de donner, maman en particulier, de donner de nombreux témoignages à des groupes de jeunes qui le lui demandaient. Ils n'avaient plus le même ressort, bien évidemment, hein, le même ressort humain, la même envie d'entreprendre, la même envie. Jean-Luc était ce moteur qu'elle avait accompagné, qu'elle avait aidé, et le moteur n'était plus là quand même. Spirituellement, cette souffrance a été transformée en offrande, et comme disait ma sœur, c'est vraiment de la lumière qui a toujours passé avec eux. Quoi. Jamais du découragement, jamais de la colère, jamais de l'abattement. Hein. Le chemin était ouvert.
Merci beaucoup, Père André Cab, merci Elisabeth Gadoulet. Donc, je rappelle que vous êtes le frère, le grand frère et la grande sœur du Père Jean-Luc Cab, ce prêtre qui est décédé donc, il y a 30 ans, dans la nuit du 10 au 11 mai 1991, plus jeune prêtre diocésain, donc, qui a été tué de 4 coups de couteau. Lors de ses obsèques, Monseigneur Sahuquet a dit « Jean-Luc est allé jusqu'au don de soi ». Et j'aurais souhaité aussi peut-être, Père André Cab, que vous nous lisiez donc la lettre que vous aviez lue aux obsèques de votre frère, Père André.
Oui, comme je disais que j'ai toujours, avec cette mort, je ne voulais pas que ce soit une séparation. Quoi. Je comprenais intérieurement que c'était une nouvelle présence qui s'offrait, et 30 ans après, je peux dire que rien de ce que j'ai vécu depuis, hein, j'ai même maintenant vécu plus de temps sans lui qu'avec lui, je n'ai pas vécu sans lui. Quoi, voilà, hein. Et c'est vraiment un accompagnement. Et dans les nuits, en effet, les deux nuits qui se sont déroulées entre sa mort et puis ses obsèques, j'essayais d'avoir quelque chose à entendre et d'avoir quelque chose à dire. Et cette petite lettre, en effet, ce petit message m'est venu. Dans cette nuit, j'ai voulu le lire à maman, évidemment, avant de le dire, hein, pour voir si ça pouvait aussi exprimer ce qu'elle ressentait. Et puis j'ai demandé au Seigneur la force de pouvoir articuler quelques sons. Hein. À ce moment-là, il faut dire que pendant plusieurs années ensuite, hein, je ne pouvais pas célébrer la messe, je ne pouvais pas dire les paroles de la consécration sans verser des larmes. Je sentais que ces paroles n'étaient pas des paroles, quoi, qu'elles étaient une vie donnée. Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé. Ce n'est pas simplement un vague souvenir, c'est quelque chose qui se vit au présent. Et c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que j'avais écrit aussi ce petit livre où je vais lire ce petit message. Hein. Maria et Jean-Luc, Maria, cette petite fille d'une vingtaine d'années aussi, qui voulait rentrer au Carmel, qui a été étranglée par son voisin de palier quelques mois avant Jean-Luc. Elle lui avait prêté des cassettes, des instruments de prière. Et puis, quand il est venu lui rapporter la cassette, il l'a étranglée sur son lit avec le fil électrique de son appareil. Et je crois que là aussi, à travers les petites lettres qu'on a pu trouver d'elle, sa vie était une offrande. Pour que j'ai voulu associer les deux. Hein. Donc ce livre, Maria et Jean-Luc, doit exister encore à la librairie de la Grotte. On doit pouvoir le trouver. Une mémoire aussi est celle d'un bas-relief qui a été fait par la sœur Mercedes, à l'époque à l'abbaye d'Ozon, maintenant à l'abbaye de Dourgne, dans le Tarn, hein, qui illustre le grain qui meurt porte du fruit. Puisque après la mort de Jean-Luc et de Maria, on a vu naître à Lourdes l'école de l'Évangile où des jeunes ont appris à laisser leur vie recevoir la lumière de Dieu et devenir un don. Voilà donc ce que j'essayais de lui dire. Tu es parti, Jean, mon petit frère, mais notre cœur est tout brûlant quand tu nous donnes le sens de cette route où tu nous rejoins. Ne savez-vous pas qu'il faut souffrir et mourir pour entrer dans la joie? Un coup de couteau dans la nuit a transpercé ton cœur, Jean, mon petit frère, et tu as versé tout ton sang, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. De ton sein vont couler des fleuves d'eau vive, et le couteau maintenant transperce notre cœur. Nous sommes avec Marie au pied de la croix pour aimer et pour pardonner, pour accueillir et transmettre le don de Dieu, la vie de Dieu. Avec toi, Marie, maman de Nazareth et du Calvaire, Marie de Lourdes et de Czestochowa, Marie de Fatima, c'est ta fête aujourd'hui, c'était le 13 mai. Avec toi, Jean, mon petit frère, sur les chemins de nos pèlerinages, à Sainte-Thérèse ou à Saint-Paul, au Narthex ou à l'aumônerie du 14, des initiatives apostoliques qu'il avait prises, avec toi, nous avons rendez-vous pour aimer. Adieu, Jean, mon petit frère. Nous le savons, si nous marchons sur tes traces, avec la grâce de Dieu, avec la force de l'Esprit du Père, nous ne nous quittons pas. Nous sommes une seule chair, un seul sang, pour toujours.